Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute. On n'arrête pas de le dire ici, le vin est un produit particulier. Produit alimentaire, produit culturel et produit esthétique. Produit financier, parfois malheureusement pour ceux qui aiment en boire. Et c'est aussi un objet de droit. Une matière première juridique, si j'ose dire. Le vin a son propre droit, le droit du vin, de la vigne et des spiritueux. Un ensemble de règles qui encadrent le monde du vin. Alors comment ça marche ? À quoi ça sert en ces temps troublés ? Et aussi, y a-t-il trop de règles ? Faut-il les simplifier ? On pense aux 363 AOC. Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions et à beaucoup d'autres aujourd'hui avec un professeur de droit de la vigne et du vin, Ronan Raffray. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et nous accueillons aujourd'hui Ronan Raffray, professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux et directeur du master de droit de la vigne et du vin. Bonjour Ronan Raffray.
Bonjour.
Alors César d'ailleurs, master du droit de la vigne et du vin, je crois que tu es un diplômé.
Eh oui, je suis un diplômé heureux. J'ai été diplômé, me semble-t-il, en 88. C'était la 2e ou 3e promotion avec le regretté Dominique Denis.
Tout à fait. Professeur Denis, fondateur du diplôme.
Exactement, fondateur du diplôme et qui nous a quittés il y a quelques années. C'était une formidable expérience.
Alors, Ronan Raffray, je vais vous présenter. Vous êtes né à Bordeaux. Vous avez 44 ans, professeur de droit, comme je le disais. Et en tant qu'universitaire, vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'articles et d'expertises sur un site internet que j'ai découvert en préparant cette émission, le site de la revue Open Wine Law, toutattaché.fr pour ceux qui voudraient le consulter sur internet, c'est gratuit. Revue éditée en partenariat avec l'Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin, l'AIDV, et des crus classés de 1855, entre autres, un projet qui fédère des expertises, des textes denses pour intéresser les professionnels et les passionnés. Et je le précise, c'est une revue pilotée par un comité scientifique indépendant. Alors on va parler de vin, de droit du vin, droit rural, droit agricole, droit du consommateur. D'abord, expliquez-nous, Ronan Raffray, qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est un vaste sujet que d'identifier le domaine précis du droit de la vigne et du vin. Alors ce que je vais faire peut-être, c'est expliquer que c'est une matière par l'objet qui va réunir toutes les règles applicables à la production, la commercialisation et jusqu'à la consommation de vin. Et je pourrais aussi présenter le droit de la vigne et du vin en rappelant le contenu de la maquette du master en droit de la vigne et du vin que j'ai l'honneur de diriger. Alors on va dire que le premier champ d'étude, c'est le droit applicable à l'exploitation viticole. Et donc là, on va former par exemple les étudiants au droit social viticole, au droit qui s'applique aux baux agricoles. On va les former aussi à la fiscalité, à la comptabilité de l'exploitation viticole. Ensuite, une autre partie est composée des règles qu'on désigne sous le terme de propriété intellectuelle viticole. En fait, on va ici enseigner essentiellement le droit des appellations. Alors, droit des appellations d'origine, droit des indications géographiques protégées, on va dire le droit des indications géographiques, et puis aussi le droit des marques, hein, qui a pris une importance économique cruciale dans la filière ces dernières décennies. Enfin, on va aussi les former à la réglementation vitivinicole. Alors, je pense par exemple au processus de traçabilité, à la surveillance du marché par l'administration des douanes et la DGCCRF. On pourrait aussi citer la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, par exemple. Et puis, pour un thème qui sera bien connu, j'imagine, des auditeurs, la loi Evin, qui encadre précisément la publicité en faveur des boissons alcoolisées et donc en faveur du vin. Et puis enfin, une partie qui s'est considérablement développée ces dernières années, c'est le droit de l'environnement qui est applicable à la filière, qui concerne bien sûr l'amont, la phase de production, avec les différents itinéraires de progression environnementale qu'on peut identifier, mais qui concerne aujourd'hui aussi le négoce, avec la responsabilité sociale de l'entreprise, qui concerne toute la filière. Voilà ce que je pourrais dire rapidement pour présenter la matière.
Matière complexe, il n'existe d'ailleurs pas de droit de la bière, il existe un droit du vin. Commençons à parler d'actualité, il y a une petite musique, c'est la petite musique de la simplification. Je le disais, 363 AOC et puis un cahier des charges qui pour certains est trop complexe, une lisibilité difficile pour les consommateurs. César, on rajoute la problématique maintenant des cépages génétiquement modifiés, hybrides, résistants. Les AOC sont-elles en danger ?
Elles sont un petit peu en danger parce que c'est complexe, parce que c'est compliqué, parce que pas une journée, une semaine sans qu'on entende, sans qu'on dise qu'on s'y retrouve pas, une soixantaine d'appellations à Bordeaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin voilà, tu as bien raison que cette petite musique de la simplification, elle existe depuis des années, avec l'INAO qui est parfois mis en cause, puisque c'est quand même le tenant des tables de la loi, si j'ose dire, mais on peut noter qu'il y a un peu de lest qui a été lâché ces dernières années, puisque maintenant on peut essayer de nouveaux cépages, tu l'as dit, on peut innover avec certaines techniques. Il y a quand même une pression forte, et on le voit d'ailleurs sur le terrain, puisque notamment par exemple ici à Bordeaux, il y a beaucoup de producteurs qui proposent des vins qui ne sont plus en appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire qu'ils sortent d'un certain carcan parce qu'ils trouvent qu'ils sont enfermés et que c'est une des raisons pour lesquelles les ventes de vins sont en difficulté. Donc oui, simplification, l'espace de liberté est gagné au forceps en fait, c'est un peu ce qu'on sent.
Alors Ronan Raffray, vous me direz, vous, c'est peut-être un peu votre fond de commerce justement, cette complexité, mais on voulait avoir le regard du juriste.
Oui, alors c'est assez compliqué pour le modèle de l'appellation. Alors qu'est-ce que le juriste pourrait en dire ? Alors le juriste, tout d'abord, il va rappeler que le droit du vin, c'est quand même construit autour de la relation à l'origine, et qu'à ce titre, la construction du système des appellations, c'est la base sur laquelle s'est construite toute la législation viticole. Donc le juriste, il a un attachement naturel, qui est aussi un attachement culturel à l'appellation, puisque, comme vous le disiez, alors sans être nécessairement notre fonds de commerce, je dirais c'est au cœur de notre travail, notamment pour moi, de formation auprès des étudiants. Ça, c'est un phénomène, un fait incontestable. Ensuite, les appellations, sont certainement largement contestées par les viticulteurs. Je dirais que ce n'est pas très étonnant pour une institution aussi classique et aussi structurante, dans une époque qui s'intéresse aux phénomènes de disruption, de différenciation. Donc c'est aussi à ce titre, je pense, qu'elles sont contestées. Et sans doute, les reproches qu'on leur adresse le plus souvent, c'est d'être trop strictes quant aux cépages, donc aux variétés de vignes que l'on peut utiliser, quant aux méthodes aussi que l'on doit employer, aussi bien dans la conduite de la vigne qu'au moment du travail de transformation, c'est-à-dire dans le chai. Et c'est à ce titre qu'elles sont critiquées, et j'imagine que notamment de jeunes viticulteurs, de jeunes vignerons, préfèrent sortir de l'appellation pour produire ce que vous évoquiez des vins de France, c'est-à-dire sans attache particulière à une région de production. Et le dernier reproche qu'on aurait pu leur faire, mais je crois que c'est quand même moins vrai, ça le sera toujours moins avec l'évolution, notamment sous l'impulsion du droit de l'Union européenne, l'évolution de la réglementation. C'est la question environnementale où longtemps, elles ont paru rétives à l'intégration de dispositions environnementales dans les cahiers des charges, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est sans doute une autre critique qu'on pouvait leur faire.
Renaud Raffray, vous militez pour ce que vous appelez une appellation d'origine viticole durable. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce qu'il rajoute en fait quelque chose aux AOC ou c'est quelque chose de complètement nouveau ?
Ce que j'ai appelé l'AOD, l'appellation d'origine durable, c'est, je dirais, une hypothèse de travail et aussi une forme de mantra pour que l'appellation soit au cœur de l'évolution de la filière vers la durabilité, qui est déjà bien engagée, mais qui va évidemment se poursuivre. Et dans ce travail, dans ce questionnement, je projette la fusion des signes de terroir, que plus connu est bien sûr l'appellation d'origine, et les signes de qualité environnementale, comme meilleur exemple, bien sûr, le signe agriculture biologique, qui est un signe officiel de la qualité de l'origine, également porté par l'INAO. Et donc j'imagine cette fusion que je considère plausible au regard de l'évolution de l'articulation des signes de qualité de terroir et des signes de qualité environnementale, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'historiquement, ces signes ont connu des itinéraires séparés. On disait en gros à l'appellation la qualité terroir, à l'agriculture biologique la qualité environnementale. Et puis, ce qui s'est passé quand même depuis 20 ans, c'est qu'entre les deux, se sont multipliés un nombre incalculable de démarches portées par des labels.
Même s'il y a déjà des appellations qui intègrent des données environnementales,
oui,
je pense à Saint-Émilion.
Tout à fait. J'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a eu la multiplication de ces signes un peu intermédiaires. Là, on peut parler par exemple de la haute valeur environnementale ou des démarches de RSE type vignerons engagés. Et on a observé aussi la possibilité d'intégrer directement dans les cahiers des charges d'appellation. Alors comme ça a été fait à Saint-Émilion, où on devra être au niveau de la certification environnementale pour être en conformité avec le cahier des charges, on s'est rendu compte qu'on pouvait inscrire des démarches agro-environnementales dans les cahiers des charges et l'INAO avait en gros facilité la procédure d'introduction de ces démarches. Donc j'ai noté, je ne suis pas le seul, mais j'ai noté un rapprochement de ces signes et sans doute que l'évolution ultime de ce rapprochement, ça sera la fusion de la qualité de l'origine et de la qualité environnementale sous la pression de divers phénomènes, notamment le dérèglement climatique qui met quand même les appellations d'origine au pied du mur, puisque je rappelle que le pire des schémas, c'est la migration des vignobles et qu'à ce titre, la durabilité implique sans doute de repenser complètement le lien à l'origine en intégrant des considérations environnementales.
Autre question juridique qui est très présente au sein des exploitations. César, la question des successions.
C'est très présent. Il n'y a pratiquement pas une semaine, Mathieu, où quand je vais sur le terrain, des propriétaires sont heureux que leurs enfants reprennent. Mais de plus en plus souvent, les enfants rechignent à reprendre. Ils voient leurs parents qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas beaucoup. On l'a vu avec toutes les manifestations agricoles ces dernières semaines. De tête, il y a pratiquement un viticulteur sur deux en Gironde qui sera à la retraite dans les 5 ans et qui n'a pas de successeur. Donc c'est vraiment une question centrale. On le voit aussi dans les grands vignobles où les hectares coûtent des millions et des millions d'euros à Saint-Émilion ou dans le Médoc, où évidemment le prix du foncier atteint un tel niveau qu'en termes de succession, compliqué pour des frères et des sœurs d'indemniser donc leurs frères et sœurs. Donc effectivement, c'est un sujet très important, c'est peut-être même un sujet clé pour l'avenir de la viticulture. S'il y a moins de jeunes, il y aura moins de vitalité, quoi, par définition.
Renaud Raffray.
Oui, évidemment, c'est un sujet alors, qui dépasse de loin la problématique d'ailleurs viticole ou agricole, puisque l'enjeu du renouvellement des générations au sein des entreprises est un enjeu global. Et à ce titre, c'est vrai que le principal levier qu'on peut mobiliser, c'est le levier fiscal. Donc on parle en permanence de l'allègement des droits de succession sur ces transmissions. Est-ce qu'il faut conditionner ça à des engagements environnementaux ? Alors, ce n'est pas moi qui ai porté ce thème. En fait, c'est le réseau Juris20, qui est un réseau de notaires spécialisés, bien représenté à Bordeaux, qui sont d'ailleurs partenaires du Master en droit de la vigne et du vin et qui forme nos étudiants sur ces questions, notamment de transmission familiale de l'exploitation dans laquelle le notaire a un rôle prépondérant. C'est une hypothèse sérieuse de travail, je trouve. Ça rejoint ce que je préconise avec ce scénario de l'appellation d'origine durable, finalement. C'est une voie ou un levier qu'on ne peut pas exclure pour l'avenir. Alors, pour les jeunes juristes, en droit de la vigne et du vin, c'est bien sûr un thème auquel il faut pouvoir répondre, qui fait intervenir, je dirais, de très nombreuses considérations, le contexte familial, le poids du prix du foncier, la rentabilité ultérieure des vignes, hein, parce que pour financer une reprise familiale, pour désintéresser les frères et sœurs, comme vous l'avez dit, il faut pouvoir compter sur une certaine rentabilité. Et à ce titre, des situations difficiles comme on connaît aujourd'hui, par exemple, dans le Bordelais, fragilise bien sûr ces transmissions d'exploitation.
Et dans les grands terroirs, eu égard au prix du foncier, jamais la rentabilité ne sera à la hauteur pour indemniser finalement les frères et sœurs. Quoi.
Donc, oui, c'est effectivement c'est la difficulté, mais avec des réformes qui sont socialement dures à porter, c'est-à-dire alléger les droits de succession pour pouvoir transmettre des exploitations qui sont extrêmement valorisées. C'est un sujet politique qui est difficile.
Du sujet politique au prétoire, parce que le droit, ce sont aussi les tribunaux. Il y a quelques affaires emblématiques qui ont marqué l'opinion publique. Et il y en a une, César, une particulièrement, c'est l'affaire des Bordeaux, des châteaux.
Pour faire simple, des propriétés du Médoc ou de Saint-Émilion utilisaient leur nom pour commercialiser des vins d'une appellation hiérarchiquement inférieure qui est l'appellation Bordeaux. Exemple, le château X dans le Médoc avait également des vignes où acheter des vins ou des raisins en appellation Bordeaux, qui est l'appellation basique, et valoriser ce vin en l'adossant à son nom, le Bordeaux de Mocaillou. Mocaillou est dans le Médoc, et le Bordeaux de Mocaillou, on pourrait penser que ce vin est produit dans le Médoc. Or, c'est une appellation Bordeaux qui était produit, ce vin était produit dans l'entre-deux-mers. Voilà, donc il y a une tromperie potentielle sur, encore une fois, l'origine de production du vin.
Le juriste avisé, Renaud Raffray, comment vous avez observé cette situation, cette affaire ?
Ben avec beaucoup d'intérêt, hein, puisque c'est une question difficile, technique, et qui pourrait se résumer de la manière suivante. L'opportunité commerciale ou économique fait-elle la régularité juridique ? Alors évidemment, on a vu dans ce système qui permettait de s'appuyer sur une marque de château forte, notoire, connue, la possibilité de valoriser des vins qu'on avait du mal à vendre, hein, notamment des vins de coopératives en appellation Bordeaux. Et à ce titre, l'opportunité économique n'était pas vraiment discutée. En revanche, la régularité juridique n'était pas du tout établie. Et c'est vrai que le tribunal correctionnel, comme la cour d'appel de Bordeaux, ont considéré qu'il y avait là pratique commerciale trompeuse, puisque en utilisant le nom d'exploitation, même amputé du vocable château, avec, donc je prends l'hypothèse qui a été jugée, le Bordeaux de Mocaillou, la cour d'appel a considéré que le consommateur pouvait s'attendre à l'achat de vin provenant de raisins récoltés sur les parcelles du château Mocaillou, et qu'à ce titre, la pratique induisait le consommateur en erreur et était constitutive d'une pratique commerciale trompeuse.
Alors on reste dans les prétoires, là c'est très récent, jeudi 22 février 2024, deux négociants condamnés pour avoir acheté à un prix trop bas la production d'un vigneron bordelais, deux sociétés qui ont été reconnues coupables d'avoir violé la loi Egalim. Alors là c'est question vulgaire, Renaud Raffray, est-ce qu'on est toujours dans le droit du vin là ou dans autre chose ?
Ah, je dirais qu'on est plus que jamais dans le droit du vin, on est dans le droit applicable à la vente de vin. Qui va avoir différentes provenances, et là plus précisément dans un texte du Code de commerce qui, en vertu de la loi Egalim, interdit à un acheteur de produits agricoles le fait de pratiquer ou de faire pratiquer à son vendeur des prix abusivement bas. Donc on est bien dans le cadre de droit de la vente de vin, parce qu'en plus ces contrats, ils sont régis par le droit interprofessionnel, hein, donc qui va être établi par le CIVB, au sens où le CIVB va fournir les modèles contractuels qui devront être utilisés et ensuite enregistrés auprès de l'interprofession pour que la vente soit valable. Et Je dirais même qu'au stade du déroulement de la vente, c'est une vente classique qui va reporter sur la manière dont on vend du vin à Bordeaux depuis belle lurette, puisque ça fait intervenir un courtier qui va faire l'intermédiaire entre le producteur-vendeur et le négociant-acheteur. Donc effectivement, on est au cœur du droit de la vigne et du vin. Ce sont des thèmes que j'aborde, par exemple, dans un cours de droit de la vente de vin que je dispense à mes étudiants pour la cinquième année, donc en master 2, droit de la vigne et du vin.
On va quitter maintenant les rives de la Garonne et on va remonter très très haut, puisqu'il y a, pour le juriste et pour tous les amateurs de vin, quelque chose qui se passe d'assez intéressant. C'est l'invention ou la renaissance plutôt d'un vignoble. Ça se passe dans le nord de la France et particulièrement en Bretagne. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez actuellement.
Alors j'aurais plutôt dit dans l'ouest, mais effectivement c'est plus au nord que chez nous. Alors c'est un sujet qui me passionne pour de multiples raisons, mais si je devais en retenir une, c'est ce phénomène qui voit s'implanter des néo-vignerons pour l'exercice d'une viticulture professionnelle et qui vient compléter une présence très modeste de vignes qui sont exploitées dans un cadre que j'appellerais domestique, c'est-à-dire dans un cadre familial ou associatif. Et cette installation de néo-vignerons, elle a été permise par la libéralisation des droits de plantation à partir de 2016 et elle a vu des jeunes vignerons faire le choix de s'installer en Bretagne avec la très grande liberté qui caractérise la production en vin de France, qu'on évoquait tout à l'heure, sans contrainte sur les cépages, sans contrainte sur les méthodes culturales, sans contrainte sur les méthodes de vinification. Donc je signale que le premier millésime professionnel, si mes souvenirs sont bons, est le millésime 2022, donc premier vin professionnel en Bretagne, et que les projets se multiplient, que le mouvement se structure petit à petit, principalement avec une association qui fédère la trentaine de viticulteurs professionnels qui se sont installés. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup en qualité de juriste du vin, c'est comment traiter cette situation qui est un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on a un vin de France, un vin sans indication géographique, mais qui est marqué par une incroyable identité régionale, qui en plus a un énorme capital de sympathie dans toute la France. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce phénomène intéresse beaucoup de monde, beaucoup parmi ceux qui s'intéressent au vin. Et c'est à ce titre qu'on est très heureux d'organiser cette journée avec l'appui, comme d'habitude, de la Cité du Vin, le 15 mars, dans l'amphi Jefferson, dans le grand auditorium de la Cité du Vin, et qu'on sera très heureux de vous y retrouver.
D'ailleurs, Mathieu, on peut signaler que là, on est en train de parler des vins bretons, mais avec le réchauffement climatique, il y a des producteurs en Île-de-France, il y a des producteurs en Normandie, il y a même des appellations d'origine en Belgique, on produit du vin dans le sud de l'Angleterre, il y a même du vin en Suède et au Pays de Galles, voilà. Donc tout ça monte vers le nord.
En tout cas, Renaud Raffray, avec cette conversation, on voit la variété des matières, du droit de la vigne et du vin. Pour les personnes que ça intéresse, les prochaines inscriptions, c'est bientôt, non ?
Oui, c'est ça. On est dans la période exactement de dépôt des dossiers pour le master en droit de la vigne et du vin. Donc j'invite, si des étudiants nous écoutent, et s'ils sont intéressés par ce milieu, je dirais, et qu'ils présentent en plus l'avantage d'être juriste, à regarder comment est constitué ce diplôme. Ils peuvent regarder notre site internet masterdroitduvintoutaccroché.org et ils découvriront cette formation qui existe depuis 40 ans. On fêtera les 40 ans cette année, qui était à l'origine, lorsque mon interlocuteur d'en face l'a suivi, un DESS, droit, économie et gestion de la filière vitivinicole, donc qui se voulait assez pluridisciplinaire. Et puis à la faveur de l'extrême spécialisation nécessaire des étudiants, qui a été rendu obligatoire par la grande complexité de la matière, eh bien il est devenu un DESS droit de la vigne et du vin, et aujourd'hui il est un master droit de la vigne et du vin, qui se fait en 2 ans et qui est rattaché à la mention droit des affaires de la prestigieuse université de Bordeaux.
César, en préparant cette émission, tu soulignais la multitude de métiers qui touchent au droit du vin.
Des métiers dans les propriétés, chez les négociants, dans les caves coopératives, sur le droit des marques, il y a également des sociétés qui emploient ce type de profil. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de filières agricoles en France ni ailleurs qui ont un droit aussi complexe, lié à la fiscalité, lié à l'origine. Et voilà, donc ce qui justifie finalement qu'il faille 2 ans d'études, puisque master c'est 2 ans, pour avoir une culture générale poussée en la matière.
On est très fiers de l'animer, on passe du bon temps avec les étudiants, on a des étudiants qui sont très investis parce qu'ils ont fait le choix, ils ont souvent traversé la France pour suivre les cours dispensés dans le cadre de ce diplôme, qui attire de plus en plus les jeunes, qui s'autorisent sans doute aujourd'hui davantage, au moins à la fac de droit, tel que je peux le constater, à suivre leurs envies, leurs passions. Et c'est l'opportunité sans doute, et c'est exactement aussi le cas pour moi en qualité de directeur de ce master, de lier la pratique du droit à l'amour qu'on a pour la filière, pour ses producteurs et pour le produit.
Une passion à suivre donc. Merci César.
Merci.
Merci Renaud Raffray.
Merci beaucoup.
On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur le réseau ou parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.